VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
6 heures à Washington, midi à Libreville au Gabon. La première demi-finale de la CAN, c'est ce soir à 19h, temps universel, à Libreville donc, entre le Burkina Faso et l'Égypte. Le Burkina Faso est pressé d'arriver en finale, a déclaré le défenseur des étalons Bakary Koné hier en conférence de presse. Et pour Hector Cooper, l'Argentin à la tête de l'Égypte, il faut jouer ce match et ne pas regarder le passé glorieux des pharaons. On retrouve tout de suite sur place l'envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon, Timothée Donangmaï.
L'important pour le Burkina Faso est de s'être qualifié pour la demi-finale, a déclaré le coach Paulo Duarte avant de juger l'adversaire.
L'Égypte, ils défendent bien, ils défendent beaucoup. C'est caractéristique du modèle de jeu de son coach, qui reste 4 pour 2 toujours derrière auquel vont pour l'attaque. L'attaque pratiquement avec 4 joueurs, parfois 5 joueurs, ça c'est le style de cette équipe.
En allusion au prestigieux palmarès de l'Égypte en Coupe d'Afrique des Nations, Paulo Duarte a fait remarquer qu'à chaque match correspond une histoire, une époque et même une équipe différente. Le coach de l'Égypte, Hector Cooper, a lui aussi tenu à souligner que l'histoire est importante, mais pas aussi importante que cela.
Et évidemment, l'Égypte a gagné 7 Coupes d'Afrique, non, aucune doute.
Alors, quand j'ai pris cette équipe d'Égypte, je connaissais bien sûr le passé de l'Égypte. Dans la Coupe d'Afrique des Nations. Mais bon, on ne peut pas se passer de l'histoire. Maintenant, nous sommes beaucoup plus appesantis sur nos ambitions personnelles qui étaient de se préparer pour cette Coupe d'Afrique des Nations et également pour les éliminatoires de la Coupe du Monde.
Hector Cooper a assuré que son équipe a le talent, l'enthousiasme et la détermination nécessaires pour gagner. En somme, une grande demi-finale en perspective. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
Merci Timothée, donc que nous retrouverons dans nos prochaines éditions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé d'un an l'embargo sur les armes à destination de la Centrafrique. Une décision prise le 28 janvier dernier, alors que le pays espérait la levée de cette sanction. Notre correspondant Freeman Sipila a tendu son micro à des Centrafricains pour recueillir leur réaction.
À l'Assemblée nationale, les députés ont à plusieurs reprises interpellé les nouvelles autorités sur les démarches menées en faveur de la levée de cette sanction. Jean Bosco Namtoa, député de Bouka 1, se dit déçu.
Moi, je suis totalement déçu parce que un État sans son armée n'est pas un État. Dans nos provinces, il y a l'insécurité qui règne. La population souffre. Alors, cette population a besoin de son armée. Mais dire qu'on a prolongé la levée d'embargo, vraiment, je suis totalement déçu de la situation.
De son côté, le gouvernement se veut optimiste. Le ministre de la Défense, Joseph Yakété, indique que malgré cette prolongation, il existe des alternatives pour réarmer les forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Je crois que c'est un coup dur pour notre pays. En même temps, c'est prévisible parce que l'expérience nous montre que partout là où il y a eu l'embargo sur l'importation des armes, l'embargo ne s'est jamais levé d'un seul coup. Ça a été de façon progressive. Je me satisfais aussi d'un aspect, c'est qu'aujourd'hui, si nous répondons à un certain nombre de critères défini par le comité des sanctions, nous avons la possibilité de nous procurer donc l'armement qu'il faut pour équiper nos soldats qui ont fini leur formation.
En 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU a imposé un embargo sur les armes à destination de la République centrafricaine alors que le pays était en proie à des violences intercommunautaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, libération de 53 personnes qui étaient accusées d'être des membres de la milice Kamuina Nsapu, un défunt chef coutumier du Kasaï central, opposé au régime du président Joseph Kabila. Les précisions Eddy Sango.
43 adultes et 10 enfants qui étaient en détention préventive depuis au moins 2 mois ont été relâchés. En échange, ils ont signé un document dans lequel ils promettent de ne plus s'engager dans un mouvement insurrectionnel. Les 10 mineurs ont été confiés à l'UNICEF à Kananga pour être ensuite admis dans un centre de réinsertion. Depuis septembre 2016, les Kasaï centrales et les théâtres de violences à répétition. Selon l'ONU, 140 personnes au moins ont été tuées dans des affrontements. La dernière vague de violences a eu lieu vendredi. Les partisans de la milice protestaient contre l'arrivée du Premier ministre Sami Badibanga et demandaient le départ du gouverneur de province Alex Kandé. La visite du Premier ministre a finalement été annulée. Kamouinan Sapou, un médecin âgé d'une trentaine d'années rentré d'Afrique du Sud en avril 2016, avait lancé le mouvement, mais a été tué dans une opération de police après avoir contesté l'autorité du pouvoir central à Kinshasa.
184 Burundais arrêtés depuis plus de 14 mois en RDC ont été extradés hier mardi par les autorités congolaises sous la supervision de la commission conjointe de vérification de la Conférence des Grands Lacs sous le regard du Haut Commissariat pour les réfugiés du CICR, accueillis par le ministre burundais de la Justice et le procureur de la République. Ces Burundais, accusés de faire partie des mouvements insurrectionnels par Bujumbura, seront conduits directement dans les bureaux des services de renseignement pour identification, selon le porte-parole de la police, Pierre Nkurukiye. À Bujumbura, retrouvons notre correspondant Christophe Nkurunziza.
De l'autre côté de la frontière, un gros camion fermé du ministère congolais de la Justice amène les prisonniers burundais, escortés par des militaires de la RDC. Après plusieurs heures d'échanges entre le gouverneur du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, la CIRGL, le CICR et le HCR et la MONUSCO, ces Burundais emprisonnés à Bukavu depuis plus d'une année peuvent enfin fouler le sol burundais. Et non, les noms de ces extradés burundais étaient lus par les agents de la douane du côté burundais, la ministre de la Justice, le procureur général de la République ainsi que le gouverneur de la province de Bujumbura-Oural leur ont souhaité la bienvenue, tout en déclarant que la justice va faire son travail conformément à la loi. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tshishambo, affirme que ces jeunes gens lui ont signifié qu'ils ont été trompés par des politiciens, mais qu'ils veulent regagner le bercail.
Quand quelqu'un est fatigué de rester en exil, il doit pouvoir rentrer chez lui. Le tout, c'est que ça se passe en respectant les normes. Et il y a l'enthousiasme au retour. Hein. Et ceux qui ne veulent pas rentrer, on ne les a même pas amenés ici. Mais il y a 184 qui doivent repartir, mais il faut respecter les normes. Il y en a qui ont dit qu'ils étaient burundais, demandeurs d'asile, au Rwanda. Ils ont quand même traversé la frontière en étant toujours demandeurs d'asile au Rwanda. Dans ce cas-là, il faut attendre que les procédures se passent comme il faut. Nous les avons arrêtés. Quand quelqu'un n'a pas le document, on l'arrête hein, dans tous les pays du monde. Moi, je les ai ramassés en prison. Je n'ai pas demandé au directeur de la prison, vous les avez trouvés où? Ils m'ont même coûté deux vaches pour les fêtes de fin d'année hein, avec les prisonniers congolais. Ça a pris du temps, on n'a pas arrêté tout le monde le même jour. Hein. Moi, je les livre au gouvernement burundais. Le gouvernement burundais est signataire des accords internationaux. Je n'ai pas demandé à quelqu'un s'il était rebelle. Si c'était un rebelle, la procédure serait tout à fait différente. Ils n'étaient pas dans les camps de réfugiés, ils étaient en prison. Non, c'est les prisonniers qui étaient fatigués de rester en prison pour rien. C'est le grand lac. Hein.
Le chef du bureau de la mission des Nations Unies en RDC estime qu'il faut tout faire pour que la paix revienne dans la région des Grands Lacs, tout en respectant les droits de l'homme. Charles Frispi.
La MONUSCO est là pour suivre le dossier parce que dans le domaine des droits de l'homme, on a des responsabilités de bien suivre le dossier pour nous assurer que les droits humains sont respectés et que les autorités que je vois le prennent en sérieux respectent le même cadre.
Au moment de cette extradition, toutes les activités économiques sur la frontière de Gatumba entre le Burundi et la RDC étaient paralysées pendant plusieurs heures. Le porte-parole de la police a confié à la presse que ces Burundais seront acheminés directement vers les services de renseignement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Le ressortissant tunisien, suspecté de vouloir préparer un attentat en Allemagne et arrêté ce mercredi, était recherché en Tunisie pour son rôle présumé dans les attaques du musée du Bardo et de la ville de Ben Gherdan en Tunisie, a annoncé le parquet allemand. La justice allemande a accusé l'individu non identifié de 36 ans d'agir pour le compte du groupe État islamique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'ex-secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé mercredi qu'il ne serait pas candidat à une élection présidentielle en Corée du Sud. Âgé de 72 ans, l'ancien ministre sud-coréen des Affaires étrangères était considéré comme un potentiel candidat à la magistrature suprême si la destitution de la présidente Park Geun-hye, massivement votée début décembre par le Parlement en raison de son implication dans un scandale de trafic d'influence, devait être confirmée par la Cour suprême sud-coréenne. Ban Ki-moon a achevé le mois dernier son second quinquennat au poste de secrétaire général de l'ONU qu'il a laissé au Portugais Antonio Guterres. Et puis Donald Trump, ici aux États-Unis, a choisi Neil Gorsuch comme candidat à la Cour suprême pour succéder à Antonin Scalia, juge conservateur décédé en février dernier, âgé de 49 ans. Le magistrat est nommé à vie, mais son choix devra être validé par le Sénat. La nomination d'un magistrat conservateur à la Cour suprême renforce la position des conservateurs dans cette institution. Jean-Roger Bion.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.